carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Carrefour des Arts vous propose toute une série d'émissions consacrées à l'œuvre ultime dans l'art en compagnie de Jacques-Louis Binet, correspondant dans la section membre libre de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie nationale de médecine. Cette nouvelle émission vous propose de vous pencher sur les dernières œuvres de Paul Klee. Issu d'une famille de musiciens, Paul Klee excelle au violon, mais il décide de se consacrer à la peinture après un voyage en Tunisie en 1914, où il déclare « La peinture et moi ne faisons plus qu'un ». Cette vocation ne lui tombe pas dessus du jour au lendemain, car avant son voyage, déjà, il côtoie le groupe de peintres du Blau Reiter, le Cavalier Bleu, un groupe d'artistes d'inspiration expressionniste, où il y retrouve notamment Kandinsky, Jacques-Louis Binet.
Oui, il retrouve Kandinsky et il vivait en Allemagne. Il est né en Suisse. Son père n'a pas fait les papiers qu'il fallait faire pour qu'il garde ou qu'il prenne la nationalité suisse. Et au fond, toute une partie de son œuvre s'est faite en Allemagne. Et dans un groupe très glorieux, dont on parlera peu ici parce que ce n'est pas le sujet, qui est quand même le Bauhaus. Il arrive en 19 à Weimar au Bauhaus qui vient d'être créé, convoqué par un architecte génial qui s'appelait Walter Gropius. Il publie un livre à ce moment-là. Il est professeur de peinture sur verre et tapisserie. Et puis ensuite, pour des raisons politiques, le Bauhaus est envoyé à Dessau. Haut architecte génial, Mies van der Rohe, et finalement fermé par les nazis en 1933. Donc le climat dans lequel il va travailler en Suisse, c'est d'abord une débâcle culturelle, qui s'associe bien sûr à une débâcle politique, puisqu'Hitler était élu chancelier en 1933, que la même année, Klee est congédié de la fonction qu'il avait prise dans l'université de Düsseldorf, et que la même année a lieu en Allemagne une exposition intitulée « L'art dégénéré ». Donc, tout ce dont on va parler, c'est une lutte contre une maladie qui débute en 1936, qui s'appelle la sclérodermie, et qui est une maladie où finalement on perd sa force, on ne peut plus saisir. Tout vous échappe des mains, ce qui est dramatique pour un peintre. Bon, l'année d'avant, grande rétrospective à Berne et à Bâle. Vous voyez, le côté suisse, ils avaient déjà commencé à récupérer, ils vont oublier après.
Et Paul Klee était revenu en Suisse entre-temps.
Ah oui, bien sûr, il venait tout le temps en Suisse. Son père continuait à vivre en Suisse. Bon, et 37, deuxième exposition de l'art dégénéré à Munich, donc une pression très forte allemande contre lui. 36, pas une œuvre, il est trop malade. Ensuite, alors, il est ce dont on va parler, c'est une sorte d'exil. Il revient, en 1933, il revient à Berne. Et il se sent pas allemand. Il se sent exilé de l'Allemagne romantique, de l'Allemagne avant Hitler, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré sa maladie qui s'aggrave, ses œuvres explosent en nombre et en qualité. En 36, 25 œuvres. En 37, 264. En 38, presque 500. En 1254, 39, l'année avant sa mort, 1250. Explosion non seulement quantitative, mais qualitative.
Et comment on explique justement cette frénésie?
C'est parce que je pense que c'est la bataille contre la maladie. J'ai aucun document pour vous le dire, mais quand même, 1250 contre 25. Et puis la solitude. Il était seul, il s'ennuyait. Il a eu la visite de Picasso, mais ils sont engueulés. Il a eu les visites de Braque, ils ne sont pas engueulés. Mais il était quand même un solitaire très célèbre, parce qu'il avait fait ce que les autres n'avaient jamais osé faire, c'est-à-dire essayer de retrouver la peinture avant la peinture, avant la grammaire de la peinture, avant l'histoire de la peinture, à la naissance de l'écriture et du langage. Voilà son obsession, d'où le côté qu'on a appelé trop souvent enfantin. Et a eu lieu en août et septembre, à Berne, une superbe exposition qui montre un groupe tout à fait différent, qui est le groupe Cobra, qui va naître 30 ans après, a été fasciné par ce travail et l'a très bien connu avant même que le groupe Cobra soit créé. Alors, donc, une peinture très proche de la création artistique et on va regarder ensemble les tableaux concernés.
Juste avant de regarder ensemble, peut-être quand même souligner ce paradoxe. Vous venez nous expliquer qu'à partir de 35-36, sa maladie, la sclérodermie, se déclenche et
une
s'aggrave.
Une année où il ne peut rien faire.
Et parallèlement, vous nous dites qu'il développe, il produit de plus en plus.
Oui, ça, je ne sais pas, c'est le courage d'un homme. En plus, il y a un contexte, non seulement la maladie, mais l'exil, la lutte d'Hitler. Les gens du Bauhaus étaient tous passés aux États-Unis, si vous voulez. Donc, ils vivaient dans une Europe mutilée. Et le grand refuge suisse était tout à fait limité, puisqu'il fallait avoir 5 ans pour obtenir la naturalisation, et qu'on peut le dire tout de suite, il a été naturalisé 2 jours après sa mort. Et je ne sais pas s'il a été vraiment. Enfin, le papier a été signé alors qu'il mourait. Bon, donc... Revenons aux œuvres, parce que ce qui est intéressant, c'est la lutte contre la maladie. Alors, je vous ai montré là 2 tableaux, le lever de la lune et avant l'éclair, qui sont des œuvres très classiques, qui retrouvent un peu l'enfance, très simple. La lune, c'est un rond jaune. L'éclair, ce sont des raies et 2 croix qui s'entrecroisent. Et il était très attaché à ce côté à la fois très expressif, mais tout à fait en dehors de l'histoire de la peinture. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, regardez ces 2 œuvres suivantes, comment s'exprime la maladie. La maladie va s'exprimer par 2 choses, des fonds très étudiés et des traits noirs. L'œuvre va être parsemée de traits très foncés, très noirs, très méchants, très violents.
Une si ponctuation, une sorte de ponctuation.
De ponctuation qui, en dehors de la peinture, n'a rien d'esthétique. Alors, il y a une œuvre qui m'intéresse, c'est le vase 38. Un vase, c'est rien. Bon, un truc qui contient des fleurs. Bon, eh bien, il montre comment le vase a explosé. Vous voyez, on voit très bien le côté droit du vase, et puis tout le reste a fichu le camp. Tout le reste est sorti, et tout le reste s'est répandu sur la toile. On voit un vague arbre, des petits pois, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais le contenu du vase a fichu le camp, pour montrer que le vase, il est plus capable de le saisir. Autre toile significative, les tiges de la même année 38, qui servaient de catalogue à l'exposition qui a eu lieu à Paris il y a 2 ans, ce sont des traits qui vont dans tous les sens. En principe, une tige est verticale. Là, c'est un peu vertical, il y a une dominante verticale, mais on ne sait pas très bien ce que ça représente. Et ça va de partout. Et ce qui va beaucoup attirer les collectionneurs suisses, en particulier le grand collectionneur de Bâle, qui va beaucoup s'intéresser à ces œuvres. Alors d'abord, les fonds. Eh bien, les fonds sont superbes et parfois romantiques. Alors, il y a un fond bleu qui s'appelle « Légende du Nil ». C'est un tableau heureux, 37, avec des carrés qui sont plus ou moins bleus, plus ou moins clairs. Et puis, sur les carrés, j'ose pas dire une écriture, des éléments graphiques qui évoquent un bateau, un poisson, une végétation équatoriale.
Des éléments graphiques qui font aussi penser à l'écriture égyptienne.
Absolument. Deuxième chose, même opposition, Insula Dulcamara. C'est un mot un peu compliqué, Insula c'est une île, c'est assez simple à comprendre. Dulcamara, ce sont 2 mots qui expriment, plutôt 2 particules qui expriment la même chose. Dulca, c'est doux, et Mara, c'est amer. Vous voyez, c'est bon. Eh bien, ça s'exprime dans les traits. Il y a un fond qui est romantique, qui est très arrangé, très subtil. Et puis sur ce fond, des traits et une sténographie, une écriture. J'ose même pas dire une écriture parce que rien n'est écrit.
Mais vous parlez d'une écriture, ça laisse penser peut-être à l'écriture arabe.
Peut-être, je sais pas. Pas tellement parce qu'elle est moins stylisée que l'écriture arabe. L'écriture est un peu enfantine, vous voyez. Il veut retrouver l'enfance. Il veut retrouver ce qu'il avait connu dans l'enfance. Et puis, un tableau très célèbre à cause du grand collectionneur dont je vous ai parlé, Ernst Beyeler, qui s'est beaucoup intéressé à son œuvre terminale et qui pense que c'est son plus beau tableau. Alors, il n'a pas de titre. Ou plutôt, les titres ont été faits après sa mort. C'est un tableau très bleu. Et pour Ernst Beyeler, c'est le plus beau bleu de la peinture internationale, de la peinture, des musées de la peinture. C'est un bleu très brillant, très subtil, qui va et vient entre le bleu et le blanc. Et puis au-dessus de ce bleu, il dit un bleu ardent, un bleu unique, un bleu extraordinaire, un bleu incandescent. Ce qu'il recherchait, c'est l'incandescent. Sur ce bleu, un graphisme qui représente vaguement quelqu'un derrière des grilles, d'où le titre qui avait été choisi qui s'appelle « Captif ». Et Beyeler était furieux pour montrer qu'en réalité, devant ce bleu spirituel, surnaturel, dit-il, incandescent. Il fallait lui donner un autre titre et il l'appelait en deçà, au-delà, 40, c'est l'année où il va mourir. Alors ensuite, il y a un délire de gros traits méchants.
Donc après la couleur, on passe au trait.
On passe au trait et il commence très tôt, en 33, quand il est chassé de l'Allemagne. Il donne un tableau dont le fond est un peu obscur, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais il est barré, le tableau, par un X, et le tableau s'intitule « Rayé des listes ». Ensuite, deuxième version, alors il va du pessimisme, très justifié dans la vie qu'il avait et dans sa solitude, à l'optimisme qui s'appelle « Promenade agréable sur le canal ». Bon, là, tout est bleu, ma reproduction que je vous montre est noire parce que je sais pas reproduire les choses en couleur. Et puis, bon, il y a un vague bateau. Mais là encore, une écriture très, très enfantine. Et puis, de temps en temps, des mots d'enfant. Tout le monde court après. C'est sur un fond blanc, des signes noirs, avec vaguement un enfant qui court, vaguement un animal qui court aussi, des plantes qui courent, ils ont des jambes, et puis des signes, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Et puis, il faut en parler parce qu'il les a multipliés, des dessins, et en particulier des anges. Il se croyait un personnage un peu surnaturel.
Est-ce que justement la question des anges, ou aussi de l'aspect monstrueux, arrive au moment où la maladie l'accapare ?
Mais ça faisait partie de ce qu'il cherchait. Encore une fois, il veut se montrer avant la création, si vous voulez. Alors les anges, vous voyez, c'est Dieu qui n'a pas encore fait son boulot. C'est les choses qui vont se faire. Il y avait reproduit dans le monde un très beau dessin qui s'appelait « La déesse serpent et son ennemi », qui monte uniquement des traits noirs, avec un serpent, une tête de déesse, et puis une vague forme qui ressemble à un hérisson, qui est l'ennemi. Voilà. Et alors, des dessins beaucoup plus pessimistes, Yves, il se laisse tomber sur son siège, 1940, et puis ensuite, il combine très souvent et le fond et les traits. Alors, une série que j'ai appelée pompeusement, ce qui veut rien dire, la série rouge. En particulier, joueur de timbales. Joueur de timbales, vous le voyez pas sur ce que je vous montre là, mais en réalité, c'est blanc. Et la grande tache au-dessus de l'œil du personnage, on ne voit que son œil et sa tête, et puis la main qui doit sans doute tenir quelque chose de rond, qui est peut-être une cymbale, en noir. Donc une opposition entre des traits violents, et puis un fond qui est très brillant, parce qu'il est rouge. Même chose pour le musicien, 1937, un peu avant ce dont je vous ai parlé, c'est une tête. Une tête dont la moitié est à peu près représentée, la partie inférieure de la mâchoire est à peine vue, ça doit être quelqu'un qui souffle dans un instrument, fond rouge, train violent. Et puis, le rouge devient rapidement du feu.
Et ça, c'est important. La mort et le feu, 1940.
La mort et le feu. Sorcière dans la forêt, c'est-à-dire un fond rouge mais qui brûle. Et puis des formes, appelons ça les forêts, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et il est assez content qu'ils ne nous disent pas ce que c'est, vous voyez. C'est quelque chose qui pourrait être la forêt, c'est surtout quelque chose qui est fait pour avoir peur et qui s'accorde ou qui s'oppose au rouge. Et de la même époque, un an plus tard, 1939, brûle encore, c'est le feu qui est toujours là. Le feu qui est là avec des images, des traits moins violents, mais des traits qui montrent que le feu a tout consumé. Et sans doute que ce que je préfère personnellement, mais j'ai peut-être tort, c'est une des toiles de sa mort qui s'appelle « Mort et feu » 1940. Alors là, c'est superbe, c'est une tête. Une simple tête sur fond rouge, très angoissée. Et puis derrière sa tête, on va dire un bonhomme, quelque chose qui bouge. Et en réalité, quand on voit la toile vraiment, elle a une trame qui est très grossière. Donc, la trame joue sur le rouge du feu, si vous voulez, et c'est vraiment ça. Et puis, à la fin, il réinvente un bestiaire, et avec poisson, colporteux, boueux. Vous voyez, il faut que ça soit un peu sale, il faut que ça boueux. Un poisson boueux, c'est dégueulasse. Bon, c'est un poisson d'étang, c'est pas un poisson de mer. Bon, et finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un squelette. C'est une ébauche de poisson, c'est une arête de poisson. Et derrière, un fond où il peut pas ne pas avoir mis de rouge. Et puis, pour montrer que c'est vraiment un poisson, il y a vaguement évoqué un petit bateau. Voilà, 1940. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il pensait de lui-même ? Eh bien, finalement, c'est écrit sur sa tombe. et on a pris dans son carnet ce qu'il écrivait dans son journal.
Donc en épitaphe, on peut lire.
Épitaphe, ici-bas, je ne suis guère saisissable. Et ça, c'est ce qu'il voulait. Et c'est ce qui énervait Picasso et Braque. C'est qu'il était insaisissable et qu'il faisait une peinture avant eux. Avant les gens auxquels ils ont succédé. Car j'habite aussi bien chez les morts que ceux qui ne sont pas nés encore. Vous voyez, il habite dans une certaine zone qui est celle des limbes où les choses ne sont pas encore créées. Elles vont peut-être se créer, elles vont peut-être disparaître, mais elles sont en train de... Et alors, cette fin qui est magnifique, un peu plus proche de la création que de coutume, ça c'est un coup de pied qui donne, en particulier à la peinture française, où quand même la coutume c'est tellement important qu'on va la sauver. On ne peut pas ne pas la reproduire, la continuer, la bouleverser, mais là, lui, il est avant. Mais il reste modeste, donc un peu plus proche de la création coutume, mais la dernière phrase, qui est une phrase de modestie, bien loin d'en être jamais assez proche. Ça veut dire qu'au fond, son but, il ne l'a pas encore tout à fait atteint, et il meurt, et le lendemain de sa mort, on apprend qu'il est enfin suisse.
Alors, comme vous nous le disiez aussi en préparant cette émission, la peinture de Klee a eu beaucoup de succès, il a été mondialement connu. Comment on explique qu'aujourd'hui, il soit un petit peu tombé en désuétude?
Ils sont tombés en désuétude parce qu'on est français, mais il est très connu dans les musées étrangers. La preuve, c'est la dernière exposition qui a eu lieu à Bâle, où on montre son influence sur un groupe qui n'a aucun rapport avec lui. Cobra, c'est Copenhague, c'est tout le nord de l'Europe. Si vous voulez, avec des gens comme Alechanski, etc. Et au fond, ils le connaissaient avant. Ils n'ont jamais connu lui-même. Ils n'ont connu que sa peinture et ils l'ont connu dans les années 55-60. Le mouvement s'est créé à Paris. Mais enfin, c'était uniquement des étrangers pour montrer son influence. Et l'exposition qui a eu lieu au Musée du Jeu de Paume l'année dernière est une superbe exposition, avec des tableaux qui font réfléchir. Quelque chose d'assez particulier, toujours des petites toiles. Mais à la fin de sa vie, il a grandi un peu. Vous voyez, la grande modestie du grand créateur. Et finalement, malheureusement, il est mort jeune, triste. Triste parce que pas tout à fait reconnu. Puis 40, c'était pas une année pour vivre et mourir, si vous voulez. Qu'est-ce qui allait se passer? Et attendant sa nationalité suisse, alors qu'il était suisse plus que tous les autres Suisses.
Alors, pour terminer cette émission consacrée à l'œuvre ultime, quelle serait l'œuvre ultime? Est-ce qu'on peut en distinguer une parmi toutes
non,
celles que
pas,
vous avez distinguées?
Non, je ne sais pas, parce que là, on tombe sur le goût personnel. Moi, ce que je préférerais, c'est la tête de mort finale. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux candidats, mais il y en a mille. Et je ne connais pas assez bien tout ce qu'il y a à Berne. Mort et feu, à mon avis, c'est une œuvre sublime.
1940, donc dans la dernière année.
Tout ça, c'est la dernière année. Oui, il meurt. Les œuvres ultimes sont de la dernière année. Poisson, colporteur et boueux, moi, le titre m'énerve. Mais le tableau est superbe. Et puis, quand même, refaisons confiance à M. Beyerler quand il parle de ce bleu sublime, d'un tableau qui n'a pas de titre, parce qu'il ne l'a jamais appelé, soit capti, soit en deçà, au-delà. C'est vrai que le bleu est sublime et qu'on imagine n'importe quoi devant ce bleu. N'importe quoi, c'est-à-dire le monde qu'il a si bien défini, le monde de Klee.
Eh bien, merci Jacques Le Binet. Prochaine émission consacrée à Raoul Dufy. À bientôt.